voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kenéen rencontre Bertrand Delanoë. Ce soir, Montmartre.
Bertrand Delanoë, après votre enfance à Bizerte, et puis l'adolescence et les années de formation à Rodez, vous montez à Paris. Mais alors, est-ce que c'est à la demande de François Mitterrand, comme le veut la légende ou la geste de Bertrand Delanoë, ou est-ce que c'est de votre propre chef ?
Non, non, c'est complètement de mon propre chef. D'abord, si vous voulez, j'ai toujours rêvé de Paris. C'était un rêve d'enfant, hein, ça. Il était né à Bizerte, celui-là. Ma mère adorait Paris. Et avant de se marier, elle y venait vraiment beaucoup. Et donc, elle avait des tas de choses à raconter sur Paris. Je me souviens qu'elle parlait du parc Monceau, qu'elle parlait du jardin Luxembourg, de l'opéra. Enfin, elle parlait de Paris comme quelqu'un qui connaissait, qui aimait. Et donc, ça me fascinait. Et j'aimais Paris avant d'y mettre les pieds. Et j'avais depuis longtemps dans l'idée que j'irais vivre à Paris. C'était une ambition bien plus forte que l'ambition politique. Et donc, en 1974, après l'échec de François Mitterrand à la présidentielle de très peu, j'ai été là de nouveau choqué parce que moi je m'attendais à ce qu'il gagne. Vous me direz, comme il a été battu de 300 000 voix. Hein. Donc, j'ai mis entre parenthèses mes projets politiques puisque j'avais eu une demande de Georges Filliou pour venir travailler avec lui. J'ai oublié tout le monde, j'ai donné nouvelle à personne. Sur le plan politique, j'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture, je suis monté à Paris. Voilà, c'est un coup de tête, un dimanche. J'ai cherché mon boulot. À l'époque, il y avait beaucoup moins de chômage que maintenant. J'ai trouvé un boulot dans une filiale de Valourec, un boulot bien d'ailleurs. Puis j'ai pris mon studio, près de la Bastille. Et quand j'ai eu mon boulot et ma Bastille, rue Le Drolin, là j'ai appelé Maurice Bellassaillère, j'ai dit « Coucou, je suis là ». Et pas très longtemps après, j'ai reçu un coup de fil d'une des collaboratrices de François Mitterrand me disant « Le président veut te voir ». Bon, voilà. Et je dois vous dire que je venais à Paris pour vivre dans la capitale de la liberté et de la beauté. Et puis, j'avais envie d'être seul et avec plein de monde. Et à Paris, c'est la ville où vous êtes seul quand vous avez envie d'être seul, et vous avez toutes les opportunités de rencontre sur le plan humain que vous voulez. Donc voilà pourquoi je suis venu à Paris.
Il se trouve que politiquement, vous allez vous trouver à devoir conquérir le 18e arrondissement. Et dans votre histoire familiale, il y a votre grand-père paternel, marin d'ascendance malouine, né à Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis il y a aussi votre grand-mère maternelle, franco-anglaise, Renée Speed, qui était fille de cocher du 18e arrondissement.
Oui, et de couturière. Non, mais là, c'est un truc marrant avec ma mère, parce que ma mère n'a pas vu d'un bon œil au début mon engagement politique, hein, ni le fait que je prenne des responsabilités. Quand j'étais élu conseiller de Paris, elle ne m'a pas félicité d'ailleurs. Je l'ai appelé quelques temps après, j'ai dit « mais tu me dis rien ?» Elle me dit « non ». Elle voulait que je sois haut fonctionnaire comme son père. Conseiller de Paris à 26 ans, tout ça, ça l'impressionnait absolument pas. Elle a un peu changé après, hein, elle était plutôt fière. Et puis, avec ma mère, j'ai eu des rapports un petit peu conflictuels, mais parce que nous avions tous les deux de très fortes personnalités, une femme admirable, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, mais un peu austère. Et moi, j'avais aussi beaucoup de caractère, je crois que je tiens en partie d'elle, d'ailleurs, mais j'avais un autre sens du plaisir.
Elle vous a pas soutenu en 77, au moment où vous êtes conseiller de Paris, mais en revanche, elle fait dire une messe pour vous en 81, pour votre élection de député du 18e.
Oui, mais comme elle est très intelligente, elle me l'a dit après. Parce qu'elle savait que ça m'aurait heurté. Mais après, je trouve ça tellement adorable. Et elle est croyante, elle fait dire une messe, elle pense qu'une messe, ça contribue à une élection. C'est-à-dire qu'elle l'a voulu, mon élection. Bon, non, c'était trop mignon, ça. Pour revenir à ma grand-mère, quand j'ai été élu conseiller de Paris, ma mère n'était pas très enthousiaste, comme je vous l'ai dit. Mais quelques années après, elle me dit « Est-ce que tu pourrais me demander un certificat de naissance de ma mère ?» Je dis « Ah bon ? Oui, si tu veux. Pourquoi ?» Et bien, elle me dit « Parce que tu es bien élu du 18e. » Je dis « Oui. » Et bien, ma mère, elle est née rue du Simplon. Donc, je dis, tu aurais quand même pu me le dire avant, parce qu'au début, dans le 18e, on me prenait pour parachuté, parce que là, Mitterrand a eu une influence. C'est Mitterrand qui m'a envoyé dans le 18e. Et donc, d'ailleurs, je vais vous raconter, là, je change un peu d'époque, mais après mon élection à la mairie de Paris, je vois Danielle Mitterrand, et elle me dit, tu sais, Bertrand, je suis jamais venu à la mairie de Paris. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, non, je voulais pas. Donc, j'aimerais bien venir à la mairie de Paris. Je dis, bah, viens me voir. Bien sûr, dans mon bureau de maire de Paris. Et elle vient le 10 mai 2001, c'est-à-dire exactement 20 ans après l'élection de François Mitterrand. Et on est tous les deux dans le bureau, et elle me dit quand même, François serait très fier, serait très heureux de te voir maire de Paris, d'autant qu'on n'a jamais pensé qu'on pourrait gagner Paris. Je dis, oui, mais tu vois, je suis sûr qu'il dirait que c'est grâce à lui. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que d'abord, elle m'a beaucoup apporté, puis parce que c'est lui qui m'a envoyé dans le 18e. Il me dirait, vous voyez, j'ai eu raison de vous envoyer dans le 18e, parce que ça vous a permis un jour d'être maire de Paris. Bref, je mélange les anecdotes, je reviens à ma mère, et donc, effectivement, ma mère me dit que sa propre mère, Renée Speed, est née dans le 18e arrondissement. Son papa était anglais cocher, on m'a dit qu'il picolait un peu, et sa maman était couturière, c'était des gens modestes. Et ma grand-mère anglaise, après, quand elle a épousé ce haut fonctionnaire français en Tunisie, c'est une femme qui était réputée à Tunis pour son élégance, sa grâce, sa classe. C'est une femme que j'ai peu connue, puisqu'elle est décédée quand j'avais 2 ans, donc je ne l'ai même pas connue du tout. Connu aucun de mes grands-parents. C'est dommage, parce que la grand-mère italienne, la mère de mon père, elle n'est pas connue. Le père de mon père, cette espèce de ce marin long cours, puis Saint-Pierre et Miquelon, tout ça, j'y suis allé, d'ailleurs, c'était assez émouvant. Les parents de ma mère non plus, j'ai connu. Ils sont tous morts avant que je naisse. Dommage.
On évoque ensemble, aujourd'hui, Bertrand Delanoë, Paris, et là, si on attaque avec vous la butte Montmartre, cette élection de conseiller de Paris en 1977, vous faites partie. À partir de ce moment-là, de ce qu'on va appeler la bande du 18e, avec Lionel Jospin, avec Claude Estier, avec Daniel Vaillant, vous êtes élus tous les quatre, en 77, conseiller de Paris. La bande du 18e, pour moi, c'est un côté bande de blouson noir. Oh, il y a une photo quelques années après, vous êtes tous en impair.
Vous avez vu les quatre, on n'a pas des têtes de blouson noir, non.
On dit que vous avez eu la peau du CRS, des Moroyistes, des Rocardiens.
Voilà, vous exagérez un peu.
Vous êtes allé au...
Non, mais d'abord, si vous voulez, c'est quatre personnes très, très différentes. Claude, c'est le il avait été un adolescent résistant. Et donc, c'est l'homme de la naissance de l'après-guerre. Bon, avec les engagements anticolonialistes, tout ça, la gauche qui serait reconstruite. Lionel, dont on ne savait pas encore qu'il avait été trotskiste, était un jeune social-démocrate, les espoirs qu'il avait dans ses sabras autour de Mitterrand. Daniel, c'était un gars du 18e. Et moi, j'étais le petit parachuté, comme Lionel d'ailleurs, hein, quand même. Et donc, tous les quatre, les combats, les convictions, les comportements humains nous ont soudés à la vie, à la mort. Claude est parti maintenant. Et nous sommes tous les quatre très, 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 très proches. Comme quoi, l'amitié est rare en politique, très rare. Mais quand elle existe, elle est belle, elle est forte, elle est durable.
Mais est-ce qu'on peut dire un mot de ce qui vient juste avant que cette amitié ne soit soudée de façon indéfectible, Bertrand Delanoë? Vous dites que quand vous êtes, sur recommandation de François Mitterrand, envoyé dans le 18e, c'est alors que débarque Lionel Jospin, qui lui venait du 15e, et vous dites on a été à deux doigts de la guérilla.
Ah bah non, on y a été, hein. Non, parce que moi, j'admirais Jospin, que j'avais connu comme secrétaire national. Et je trouvais que c'était un mec vachement bien, quoi. Et puis Mitterrand, il avait cette particularité. Il envoyait un mec quelque part, et puis après, il en envoyait un autre. Pour susciter l'émulation, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on était tous les deux destinés à la même circonscription législative. Celle où Lionel Jospin a été battu en 78, et celle où j'ai été élu en 81. Non, mais ça, c'est nos trucs un peu de... On se taquine beaucoup, quoi. Donc, voilà. Non, mais au début, j'avais pas du tout envie qu'il vienne, quoi. Je lui ai dit, hein. Donc, ça a été... En plus, j'étais secrétaire de la section, donc ça dépendait un peu de moi, quand même, son atterrissage. Mais bon, J'ai pas mis très très longtemps à comprendre que c'était quand même quelqu'un d'une grande envergure, qu'il avait quand même 13 ans de plus que moi, qu'il était secrétaire national du PS, que voilà, fallait pas que je perde mon temps à une bataille inutile. Donc, c'est vrai que le fait de le, après avoir eu beaucoup de réticences, de le faire moi-même accepter par cette section du 18e, a été fondateur de notre lien, évidemment. Et voilà. Et puis après, vous savez, c'est les alchimies humaines qui font que, voilà. Et cette bande du 18e, elle a existé, elle existe. Au-delà de l'absence de Claude, maintenant, avec Lionel et Daniel, on reste très très proches. Et puis Claude est toujours présent avec nous. Et donc, c'est une belle histoire humaine. Ça, c'est une belle histoire de militantisme qui crée de l'amitié et de l'amitié qui résiste à tout. Parce que on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais on a toujours été ensemble et on s'est jamais éloignés les uns des autres. Jamais.
Vous insistez sur ce qui vous réunit, mais aussi ce qui vous distingue d'emblée, Bertrand Delanoë, dans cette bande des quatre du 18e arrondissement. Et vous aimez bien rappeler que ce qui vous distingue notamment de Lionel Jospin, c'est qu'il n'est pas un méditerranéen, pas comme vous. Qu'il n'est pas sentimental, dites-vous.
Ah si, si. Si, si, non, non. Il a des sentiments, il a de l'attention, il a beaucoup de délicatesse, mais c'est quelqu'un de très rationnel. Voilà. Je dirais pas que je suis irrationnel. Disons qu'il y a plus de place dans l'irrationnel, et notamment dans la vie politique, il est toujours dans la rationalité, mais avec les atouts, parce que c'est quelqu'un de très puissant sur le plan de l'analyse, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant avec lui-même dans la transformation d'une conviction en projet et du projet en acte. D'ailleurs, il a été, de tous les hommes politiques français, celui qui a été le plus cohérent entre son rôle d'opposant et son rôle de dirigeant. Moi, ce qui me frappe chez Lionel, c'est candidat à la présidentielle en 1995. Il a un programme qu'il aurait pu appliquer s'il avait été élu. Et candidat aux législatives en 1997, à la veille de devenir Premier ministre élu, ce qui n'est pas pareil qu'un Premier ministre nommé, il a un projet où il nous impose, et il s'impose à lui-même, d'élaborer un projet que nous pourrons mettre en œuvre et que nous mettons en œuvre. Ça, c'est dans la vie politique et dans la confiance que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis des responsables publics, cette honnêteté qu'on a retrouvée aussi chez Mendès France, cette rigueur, ça ne diminue en rien la puissance de l'analyse, de la créativité, de l'aptitude à gouverner. Mais c'est un facteur de vitalité démocratique qui est inestimable.
Et
donc
sur
Lionel, oui, j'insiste là-dessus. Alors, après, attention, Lionel est quelqu'un qui n'est pas démonstratif, mais c'est quelqu'un qui est sensible, et c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif à ses amis, qui est très délicat, extrêmement délicat, mais qui n'en rajoute pas.
Mais vous insistez sur la rationalité de Lionel, peut-être pour dire aussi votre propre irrationalité, qui ne vous définit pas entièrement, Bertrand Delanoë, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin justement d'un peu d'irrationalité pour exercer et conquérir le pouvoir quand on est un homme politique ?
Attendez, d'abord, Lionel Jospin m'a formé. Et dans mes démarches politiques, ce que Lionel Jospin m'a apporté en formation a compté beaucoup. Et je suis comme lui, quand j'ai été candidat, alors en premier plan à la mairie de Paris, j'ai fait et j'ai élaboré avec d'autres un projet que nous avons mis en œuvre, que nous avons même dépassé. Par exemple, dans le domaine du logement social ou de la politique sociale. Moi, le socialiste libéral, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai mené une politique de gauche dont je voudrais bien que certains qui font la leçon, en fassent autant. Bon, mais ce que m'avait appris Lionel et ce à quoi j'adhérais complètement d'ailleurs, hein, mais quand même, il m'a appris, c'est de présenter aux citoyens d'être ambitieux, audacieux, d'être créatif, d'être original et d'être, je veux dire, volontariste, donc de proposer des choses vraiment ambitieuses, mais en même temps de se donner les moyens de les mettre en œuvre. Honnêtement, je crois que c'est ce que j'ai fait, et donc je n'opposerai pas Lionel et moi là-dessus. Non, simplement, moi je suis plus démonstratif. Je dis les choses. Je suis méditerranéen, oui, ça, incontestablement. Je suis peut-être plus romantique. Puis les distinctions sont pas l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Daniel, qui est aussi notre pote,
Daniel Vaillant,
il est aussi assez rationnel. Il est moins, il fait moins dans la poésie, quoi. Moi, je m'enthousiasme vite. Et vous parliez de Montmartre. Moi, j'ai été séduit par Montmartre immédiatement parce que Montmartre, c'est le charme, c'est l'insolence, c'est la fronde, c'est la commune, c'est les artistes, c'est Montmartre, j'ai adopté comme Montmartre m'a adopté, j'en suis devenu après le député, mais Montmartre, pour moi, c'était cette partie de Paris qui était la plus bordélique. Et donc j'adorais ça. Voilà, et créative aussi sur le plan artistique.
Et on dit que Mitterrand, François Mitterrand, qui vous a pourtant envoyé en mission dans le 18e arrondissement, ne vous donnez pas gagnant en 1981 quand vous êtes élu député du 18e.
Non mais personne ne me donnait gagnant. Ça, c'était génial. C'est-à-dire que moi, j'avais conseillé à Lionel d'aller se présenter à un endroit où il avait des chances d'être élu, parce qu'on pensait que celle-là, on la gagnerait pas. Bon. Donc, simplement, on a fait campagne avec mon suppléant, Alain Davzac. On disait qu'à nous deux, on avait moins, en ajoutant nos âges, que celui qu'on affrontait, qui était député depuis 23 ans, que j'estimais beaucoup d'ailleurs, qui est devenu un ami, hein, Joël Le Tac, un compagnon de la Libération. Et non seulement on a gagné, mais en plus, on a fait un très bon score. Voilà. Et Joël Le Tac est un homme que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, pendant la campagne, c'est incroyable, là aussi, c'est une chance. J'ai été candidat et élu député à 31 ans, contre un homme dont je disais du bien et qui disait du bien de moi. C'est des cadeaux, des trucs comme ça. Bon. Et Joël est devenu un ami. Et d'ailleurs, ce qui était assez frappant, c'est que moi, je suis allé beaucoup le voir après. Il m'a dit, t'es mon successeur. Bon. Et je suis allé le voir même dans sa maison de retraite. Et à ses obsèques, il y avait le général de Boissieu comme chancelier de l'ordre de la Libération. Il y avait Daniel Vaillant et moi. Il n'y avait pas de militants RPR. Il y avait Michou. Michou, qui lui est un homme fidèle, qui a toujours été gaulliste, RPR, chiracien, bon, et que j'aime beaucoup, et qui est une figure de Montmartre. Bon. Et Michou était venu aux obsèques de Joël Le Tac. Mais les militants, alors ça devait être l'UMP à ce moment-là, ils n'y étaient pas. C'est pas bien. Moi, j'aimais beaucoup Joël Le Tac.
Joël Le Tac, c'était donc votre adversaire en 1981, quand vous êtes élu du 18e arrondissement de Paris, député du 18e arrondissement de Paris, de cette 26e circonscription, Bertrand Delanoë, qui comprend donc Montmartre.
Et Clignancourt, hein, attention, elle va jusqu'à la porte de Clignancourt, mais c'est le milieu du 18e arrondissement. Ça passe par la rue du Montcenis, la rue du M, tout ça, la rue des Saules. Il y a plein d'endroits, vous avez la rue de l'Abreuvoir, la rue Girardon, l'allée des Brouillards.
Mais précisément,
vous savez que l'allée des Brouillards, c'est l'endroit le plus beau de Paris? C'est l'endroit le plus beau de Paris et presque personne ne le connaît. Ça va de la rue Girardon et de la place Dalida jusqu'à la place des trois frères Casadesus. D'ailleurs, Gisèle Casadesus y a habité jusqu'à sa mort. Et c'est un endroit magique. Vous avez un endroit romantique avec des arbres, un truc qu'on appelle le château des Brouillards, mais enfin c'est un édifice, mais c'est d'une beauté. Et c'est plein de poésie, de charme. C'est pas étonnant que plein d'artistes soient attirés par cet endroit, même s'il a beaucoup évolué.
Oui, parce que c'était Nerval qui s'était entiché de cette allée des Brouillards. Il y avait eu des bohémiens qui ont vécu là au 19e siècle. Il y a eu un bal dansant où, dit-on, allait Victor Hugo, un général, Dalida et vous.
Oui, moi aussi j'y habitais. Enfin, pas aller des Brouillards, avenue Junot.
Aujourd'hui, c'est beaucoup des stars, des gens qui ont une certaine fortune, qui peuvent se permettre d'habiter du côté de l'avenue Junot ou de l'allée des Brouillards. Mais quand vous êtes élu député en 1981, ce Montmartre et Clignancourt, cette circonscription, cette 26e circonscription, Ça ressemble à quoi? Vous avez quelles images encore à l'esprit, Bertrand
C'est
Delanoë?
populaire. Je vous rappelle que ça va jusqu'à la porte de Clignancourt et que dans le quartier des Abbesses, qui en fait partie, vers la rue Poulbeau, vers toutes ces rues, la rue Norvin, etc., vous avez à la fois Jean Marais, mais vous avez aussi des gens de toutes sortes. Moi, je me souviens que quand j'habitais avenue Junot, j'adorais aller prendre mon café le matin à la Divette du Moulin, c'était un bar tabac, et vous aviez là les fêtards, les artistes et les gens qui prenaient le boulot. Les peintres en bâtiment ou autres. Non, il y avait un mélange. Maintenant, j'y vais un peu moins. C'était déjà en voie d'embourgeoisement, incontestablement. Mais il y avait cette espèce de mélange de charme. Et je crois que l'âme de Montmartre subsiste. Peut-être qu'il y habite aussi maintenant des gens sur la base de l'argent, mais des fois aussi parce que ce sont des artistes. Moi, j'aime bien le mélange. Ce que j'aime pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les ghettos. Donc, les ghettos de riches me plaisent pas. Mais le mélange, c'est très bien.
Avant que vous deveniez ce moine soldat à la mairie de Paris, quand vous serez maire et que la charge et ses contraintes vous imposent une vie à la fois réglée et d'une grande exigence professionnelle, vous êtes déjà, donc au début des années 80, ce piéton du Parti Socialiste qui est parti conquérir le 18e arrondissement, mais vous aimez aussi la fête.
Alors d'abord, parce qu'il faut être quand même honnête, j'avais 31 ans, ou 32 ou 33, donc je pouvais à la fois travailler beaucoup dans la journée et faire la fête. Bon, donc je voudrais pas, parce que j'étais aussi dirigeant du PS à l'époque, Non, j'ai été, je bossais beaucoup. Simplement, je pouvais même faire des nuits blanches, aller bosser en pleine forme, Bon. Mais, oui, j'ai aimé la fête, mais j'ai toujours aimé la fête, on parlait de Rodez. Et à Rodez aussi, j'ai fait la fête. Pour moi, si vous voulez, c'est pas antinomique. La gravité, la profondeur, le sérieux, l'exigence et la joie. Et la joie, ça passe par les autres, ça passe par la musique, ça passe par un peu de vin, ça passe par des soirées. Et c'est vrai que c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous dire, par exemple, parmi les joyeux de Montmartre, puisque Dalida aimait bien que tout le monde soit à côté, celle qui m'a convaincu d'habiter avenue Junot pour être encore plus près de la rue d'Orchamps. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il y a eu de la fête, on sortait beaucoup avec ce qu'on a appelé la bande de Dalida. C'était joyeux, c'était bien. Moi, j'aimais beaucoup Dalida parce que, au-delà de notre rencontre qui s'était faite par la politique, il y a eu tout de suite une alchimie de Méditerranéens, d'Égyptiennes italiennes, moi de Tunisiens français avec un peu d'Italien, et on s'est trouvé tout de suite. Bon, donc c'était bien. Bon, là, qu'est-ce que j'aime cette période. Oui, j'aime beaucoup cette période. Montmartre est bon.
Et pourtant, Bertrand Delanoë, vous n'avez pas écouté le conseil peut-être de Dalida. Vous avez tenté d'échapper à Montmartre. En 1986, où l'orgueil, dites-vous, vous amène à tenter votre chance aux législatives dans le Vaucluse. Dites-nous un mot de ce traquenard.
Dalida m'a pas dissuadé du tout, elle y comprenait rien. Si je le faisais, elle était d'accord.
Non, mais vous voulez près d'elle.
Oui, non, mais je sais bien. Alors, 1986, Mitterrand supprime le scrutin proportionnel, donc les circonscriptions, et établit la proportionnelle. Donc, on savait qu'à Paris, on aurait beaucoup moins de députés. Donc, tout le monde voulait que je reste député, puisque j'étais devenu le numéro 3 du PS entre-temps, puis bon.
Et donc, secrétaire national en charge des fédérations.
Et de l'organisation, du contentieux, enfin, il y avait beaucoup. C'était bien, on travaillait beaucoup, et je faisais pas que la fête. Donc, on avait pensé au Vaucluse, j'y suis allé, j'ai vite compris que c'était pas pour moi, que j'allais être rejeté. Et c'est là que je me suis dit, tu dois construire une autre vie totalement sans responsabilité politique professionnelle. Voilà. Donc, j'ai quitté Montmartre après pour des raisons financières. Parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvé avec rien. Bon, donc j'ai vendu mon appartement de l'avenue Junot. J'ai acheté un appartement beaucoup plus modeste dans le Marais. Et puis parce qu'il y avait aussi quelque chose, c'est que je n'étais plus député de la Butte, mais on continuait à venir sonner chez moi pour me demander des trucs. Donc je me suis dit, la rupture, il faut que tu la fasses vraiment, parce que sinon, tu vas pas réussir ta nouvelle vie. Et donc, voilà, jusqu'à la fin de mes mandats, donc en mars 2014, j'ai représenté le 18e arrondissement. J'y ai passé beaucoup de temps. J'y vais encore beaucoup, hein. Je suis très attaché au 18e.
Mais votre vie professionnelle est ailleurs. On peut dire que vous travaillez dans la pub, dans la communication. Et au départ, c'est avec le groupe Robert et Partners de Daniel Robert. Et c'est ce groupe qui a signé le slogan « Au secours, la droite revient » en 86. C'était vous, ça, « Au secours, la droite revient » ?
Non, c'était Daniel Robert. Justement, je l'avais trouvé très bon. Et je me suis dit... Parce que quand j'ai quitté la vie politique, il n'y a que Gaston Defferre qui a compris que je puisse avoir envie de revenir à l'entreprise privée. Mitterrand, justement, n'était pas très content. Mais Gaston, lui, comprenait, c'est un vieux très jeune dans sa tête. C'est un type formidable, vous savez, qui n'a pas été jugé à sa vraie valeur. C'est un type drôle, rigoureux, malin, coquin de temps en temps, très cultivé, amoureux de la danse. Et Gaston m'avait fait rencontrer Bleustein Blanchet d'abord, puis Jean-Luc Lagardère. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais envie vraiment d'indépendance totale. Donc je me suis dit finalement, ce qui est le plus évident, ce que tu peux commencer tout de suite, c'est la communication. Moi, je m'évaluais comme bon analyste et capable de bâtir une stratégie de communication, mais je n'étais pas un créatif au sens où je trouvais des slogans.
Il n'y a pas un slogan qu'on
Daniel Robert. Il y en a un que nous avons conçu ensemble. Et j'en suis très fier, celui-là. Parce que je me souviens dans le délire où on a parlé de ce qui a abouti à ce slogan. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une campagne contre l'alcool au volant. Tu t'es vu quand t'as bu? Et celle-là, on l'a fait ensemble, y compris, je me souviens, quand je disais, oui, mais quand on a bu, on est moins bon sexuellement, quoi. Il y a une des séquences où le mec a l'air con, parce que comme il a bu, bah, sa copine n'est pas contente. Donc ça, tu t'es vu quand t'as bu, on l'a accouché ensemble en se marrant. Et sans boire. Et après, j'ai monté mon cabinet de conseil, ma propre boîte de pub d'ailleurs. Voilà.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bertrand Delanoë. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.